Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, cette émission est consacrée à la fête de l'Annonciation de la Mère de Dieu que notre Église célèbre aujourd'hui ou dans 13 jours pour ceux des orthodoxes qui suivent l'ancien calendrier. Pour en parler, nous recevons l'hiéromoine Macaire du monastère de Simonos Petra au Mont Athos. Père Macaire, une grande fête aujourd'hui, une fête donc du calendrier liturgique fixe qui est célébrée pendant le Grand Carême, donc pendant une période dont les célébrations sont fixées par le calendrier mobile, ça dépend de Pâques. Alors déjà, pas une curiosité, mais quelque chose d'étrange dont nous allons parler, et puis évidemment le sens de cette fête. Vous avez voulu appeler cette émission « Annonciation, une seconde création ». Alors, quel est le sens de cette fête ?
Le sens est fondé d'abord sur l'astronomie, puisque le 25 mars correspond à peu près au moment de l'équinoxe de printemps, où l'obscurité de la nuit commence à laisser place à la lumière. Et donc les jours augmentent, et c'est à partir du moment précis où astronomiquement le jour commence, où l'Église a choisi de célébrer le début justement de cet avènement du soleil de justice, qui est le prémisse donc de la nativité qui arrivera exactement dans l'autre équinoxe. Donc c'est le moment où la ténèbre laisse la place à la lumière, et pour inaugurer l'intervention définitive de Dieu dans l'histoire par l'incarnation de Jésus-Christ. Car la conception du Christ par la visite de l'ange à la Sainte Mère de Dieu correspond donc à sa conception, donc à son incarnation. La nativité n'est que la conséquence de... Donc c'est la fête principale, je dirais, davantage encore même que la nativité, c'est la fête de la descente du Verbe de Dieu dans la nature humaine, par la visite de l'ange.
D'ailleurs, notre Père de la fête dit bien que c'est aujourd'hui le début, le principe du salut. Et justement parce que le salut commence par l'incarnation le jour de l'Annonciation. Alors, ce jour-là, c'est le 25 mars ou 13 jours plus tard, comme on a dit, pour ceux qui suivent l'ancien calendrier, dont le mois Athos d'ailleurs. Mais évidemment, on tient beaucoup à maintenir cette date pour la célébration de la fête. Je rappelle qu'il y a plusieurs autres fêtes qui, lorsqu'elles tombent vraiment à certaines dates du Grand Carême, elles sont repoussées. Par exemple, à Saint-Georges, qu'on fête très souvent le lendemain de Pâques, pour que la fête ne soit pas célébrée pendant le Grand Carême ou la Semaine Sainte. Et cette fois-ci, on ne bouge pas du tout. On maintient au 25 mars.
Oui, et même il y a certaines années où l'Annonciation, donc ce jour de joie par excellence, peut tomber le Grand Vendredi, le jour de la Passion du Christ. Et donc ça a été l'occasion, dans l'histoire de la liturgie, de rubriques liturgiques complexes, comment combiner cette atmosphère de joie de l'Annonciation avec les hymnes de la Passion du Christ. Et c'est admirable comment justement la tradition de l'Église a réussi à concilier les deux choses sans bouger la fête de l'Annonciation. Et il faut rappeler aussi que non seulement sur la dimension astronomique, donc avec l'équinoxe, mais le 25 mars est, d'après une certaine tradition, le jour précis de la création du monde. Donc une certaine tradition, est plutôt symbolique que réelle, évidemment, dit que le monde a été créé le 25 mars. Et donc le nouveau monde, le renouvellement, la restauration du monde ancien qui avait été détourné par le péché d'Adam, et donc intervient également le 25 mars. C'est pour ça que, d'après la tradition, le jour de l'Annonciation est le jour de la deuxième création. Et donc, très précisément, elle ne doit pas être bougée, même en occurrence avec le Grand Vendredi ou avec Pâques. Mais avec Pâques, en Grèce, on dit, quand l'Annonciation, d'où tombe le jour de Pâques, on dit c'est la double Pâques. Et c'est une double Pâques. Mais là, donc c'est plus conciliant. Il y a les deux. Mais c'est très intéressant au point de vue liturgique de voir comment les deux choses se concilient.
Si on lit dans le Synaxaire, livre que vous connaissez très bien, on va en parler tout de suite après, on voit qu'il y a tout de suite un rapprochement que les pères de l'Église ont d'ailleurs repris très souvent entre Ève et Marie, la deuxième Ève. Donc je crois que c'est un point capital dans la manière de comprendre cette fête, et cela vaut peut-être la peine que de le développer un peu.
Et ce n'était pas un tour rhétorique simplement, comme Marie, la seconde Ève, qui a restauré donc, la nature humaine par son incarnation. Et donc, c'est l'expression populaire et, disons, poétique d'une doctrine théologique très importante, qui est celle de saint Paul, ce qu'on appelle la récapitulation, mais qui a été développée par saint Irénée dès le IIe siècle, et donc où le Christ est venu comme deuxième Adam, restaurer Adam qui a déchu, pour le rétablir la nature humaine, et donc la Sainte Mère de Dieu, qui est l'organe de l'accomplissement du mystère du salut, est la deuxième Ève. Permettez-moi de vous citer cette parole très importante de saint Irénée de Lyon, donc père de l'Église d'une importance primordiale, qui était évêque de Lyon au IIe siècle. Il dit « De même que celle-là, Ève, avait été séduite par le discours d'un ange, de manière à se soustraire à Dieu en transgressant sa parole, de même celle-ci, c'est-à-dire Marie, fut instruite de la bonne nouvelle par le discours d'un ange, de manière à porter Dieu en obéissant à sa parole. » Et de même que celle-là avait été séduite de manière à désobéir à Dieu, de même celle-ci, c'est-à-dire Marie, se laissa persuader d'obéir à Dieu afin que de la Vierge Ève, la Vierge Marie devienne l'avocate. De même que le genre humain avait été assujetti à la mort par une Vierge, il en fut libéré par une Vierge. La désobéissance d'une Vierge ayant été contrebalancée par l'obéissance d'une Vierge. Tout est dit.
On fait une parenthèse maintenant pour parler justement du Synaxaire, un livre que vous connaissez bien, puisque vous y travaillez vous-même. Et je voudrais que vous nous présentiez un tout petit peu votre travail.
Eh bien, depuis que je suis au Moratos, depuis pour plus de 30 ans, je travaille à cette édition française du Synaxaire, que le livre classique donc de recueil des vies des saints de l'Église orthodoxe, mais qui me présente dans sa manière classique des vies trop abrégées. Donc, en fait, j'ai fait une re-rédaction du Synaxaire pour chaque jour de l'année d'avoir une vie résumée de tous les saints qui sont commémorés dans toutes les églises orthodoxes locales. Donc, sur la base du Synaxaire de la Grande Église de Sainte-Sophie de Constantinople, il a été donc élargi à tous les saints commémorés dans l'Église orthodoxe. Donc, mon édition française du Synaxaire, qui va être bientôt rééditée, qui est distribuée en France, comprend tous les saints, même les plus contemporains, donc les saints même canonisés en 2010 ou 2011, et qui montre justement quelle est la réalité, la synaxe, c'est-à-dire l'assemblée de l'Église. L'assemblée de l'Église, c'est l'assemblée des saints. Et donc, comme disait un auteur latin du IVe siècle, l'Église, c'est la communion des saints. Et donc, nous ne sommes pas seuls devant Dieu, à cheminer vers Dieu, mais avec tous les saints. Et donc, le livre du Synaxaire, c'est, comme disait saint Justin Popovitch, l'encyclopédie orthodoxe. C'est la source de toute la connaissance utile pour le salut d'un fidèle orthodoxe, bien sûr complémentaire de la Bible et des saints-pères.
Est-ce qu'on peut déjà le trouver? Il y avait eu une édition.
Il y a eu une édition qui est épuisée en français. Maintenant, nous avons publié déjà 2 volumes sur 6 volumes qui sont disponibles en librairie. Et maintenant, en collaboration avec les éditions du CERF, les 4 autres volumes, j'espère, pourront être publiés bientôt.
Très bien, merci. Alors là, je propose un arrêt pour prier, pour aller dans l'église. Et cette fois-ci, on sort du Moratos, mais on reste dans une dépendance quand même du Moratos, en particulier du monastère Simon Petra. Nous allons dans le monastère d'Ormilia, qui est un monastère de femmes. Donc, ce sont des moniales qui chantent. Et c'est un stichère tiré de la liturgie de l'Annonciation. Et nous allons après le commenter.
Oh.
après cette prière donc au monastère d'Ormilia avec les moniales du monastère. On revient au texte qu'elles ont chanté. Père, si vous voulez bien nous le lire et puis commenter un peu cet hymne.
Oui, c'est le premier tropaire des Vêpres de l'Annonciation. Donc je lis rapidement la traduction. « Te découvrant l'éternel dessein, ô Vierge, Gabriel se tint devant toi et te salua en disant « Terre sans semaille, réjouis-toi. Buisson qui brûle sans être consumé, abîme insondable au regard, réjouis-toi. Viaduc, ou pont plutôt, menant de terre jusqu'au ciel, échelle que Jacob a contemplée, vase divin contenant la manne des cieux, réjouis-toi qui nous libère de la malédiction, réjouis-toi espérance d'Adam et son relèvement, le Seigneur est avec toi. » Donc c'est un développement poétique sur les paroles de l'ange dans l'évangile de Saint-Luc. Dès les premiers mots, nous avons donc un condensé théologique de toute la théologie la plus profonde et de saint Paul et des pères de l'Église, te découvrant l'éternel dessein. Donc le « voulit poenion », c'est le but que Dieu avait depuis la création du monde, que le terme de cette création devait être l'incarnation. Et même, audacieusement, les pères de l'Église disent « même si l'homme n'avait pas péché, Dieu avait comme vue sur l'incarnation, sur l'histoire, qu'il devait aboutir à l'incarnation du Christ sous une forme qu'on ne peut pas imaginer, peut-être différente, mais le terme de l'histoire, le terme du dessein de Dieu était l'incarnation du Christ. Et donc la mère de Dieu est l'organe non pas passif, mais actif de cette intervention définitive et décisive de Dieu dans l'histoire et de cette réalisation du dessein éternel de Dieu. Par son fiat, que la volonté de Dieu soit faite. L'ange lui a proposé de recevoir le germe divin, donc par la parole, le verbe de Dieu. Mais tout dépendait de son acquiescement. Et ça qui est donc le résumé, pour ça que la fête de l'Annonciation est si importante dans notre vie spirituelle, c'est qu'elle montre tout l'acquiescement de la nature humaine au dessein divin. Ce dessein prééternel de Dieu n'aurait pas été réalisable sans l'acquiescement libre de la nature humaine en la personne de la Sainte Vierge.
Et puis rappelons-nous aussi la simplicité dont tout cela est dit dans l'évangile de Luc. C'est extraordinaire. En quelques mots, vous avez cet échange qui fait basculer l'histoire vraiment de l'humanité. Alors, nous avons entendu ce chant chanté par les moniales d'Ormilia, donc un monastère de femmes, mais qui dépend du matos, en particulier de votre monastère, de Simonos Petra. Alors, si vous voulez nous expliquer un tout petit peu ce lien spirituel, et puis parler en deux mots de ce monastère d'Ormilia dans le nord de la Grèce, qui est vraiment très impressionnant.
Oui, on dit souvent que le mont Athos, donc l'accès du mont Athos, est interdit aux femmes, mais ça ne suppose aucune misogynie. Et au contraire, puisque la maîtresse du mont Athos est la mère de Dieu, tous les monastères ont des reliques de saintes et vénèrent les saintes, donc il n'y a aucune misogynie là-dedans. Et certains monastères du mont Athos ont des dépendances féminines, donc à l'extérieur de la péninsule, qui suivent exactement les règles et la discipline du mont Athos, dont le père spirituel, puisque c'est une chose décisive dans un monastère orthodoxe, c'est la personnalité un père spirituel, est un moine du mont Athos. Et donc le monastère d'Ormilia a été fondé en 1974, lorsque notre communauté, qui est actuellement à Simonos Petra, s'est déplacée avec notre père spirituel, l'archimandrite Emilianos, des météores pour s'installer au mont Athos. Et donc à ce moment-là, nos moines, enfin le noyau primitif de notre communauté, étaient des moines très jeunes, la plupart étaient novices, avaient une vingtaine d'années, et il y avait tout un groupe de jeunes filles, de 20 ans au moins, et qui désirait mener la vie monastique sous la direction spirituelle du père Emilianos, dans l'ombre et en suivant les règles du mont Athos. Donc, ils sont installés dans une dépendance abandonnée, une ferme d'un monastère athonite. Et depuis 30 ans, le monastère a connu une expansion considérable. Maintenant, c'est une véritable ville, et avec 120 moniales. Et beaucoup d'entre elles sont les sœurs, les cousines, les mères de nos moines de Simonos Petra. Donc, nous sommes une famille spirituelle et qui suivent tous la même orientation et l'enseignement que nous a donné l'archimandrite Emilianos.
L'archimandrite Emilianos, une très grande figure spirituelle, évidemment, du monde orthodoxe en général, je dirais, dont le rayonnement dépassait et a dépassé de loin les limites géographiques du mont Athos, bien sûr. Et je crois que vous devez le ressentir tous dans la communauté, la chance inouïe, certainement, dont vous m'avez souvent parlé, et d'autres aussi le disent, d'avoir eu un père spirituel de cette
envergure. Si le mont Athos a reconnu cette extension et ce renouvellement depuis une trentaine d'années, c'est grâce à la présence d'hommes spirituels, enfin de pères théophores, c'est-à-dire habités par Dieu, et qui ont reçu un charisme particulier d'enseignement et de transmission de leur expérience. Et donc le père Milenus, c'était l'un d'eux, avec une particularité enfin, due à son caractère, à son charisme propre, et qui a été pour nous donc, notre guide, non seulement notre guide et notre père spirituel, mais celui qui nous a donné un tel goût, un tel enthousiasme pour la vie spirituelle, que d'abandonner le monde, d'abandonner les perspectives de carrière, de fonder une famille, est une chose tellement facile pour suivre cet homme qui était pour nous fascinant.
Retour donc maintenant à la fête de l'Annonciation et au mont Athos, puisque évidemment la fête de l'Annonciation est célébrée de manière absolument extraordinaire au mont Athos. Je crois qu'il y a 3 monastères qui ont leur fête, et pour des célébrations qui peuvent durer très très longtemps. Alors, ça nous amène aussi à réfléchir un peu sur la durée des célébrations. Très souvent, on a peur de ça. On dit oui, c'est bien, mais évidemment, ça dure longtemps, etc. Alors, et quand on rentre dans ce monde, on voit qu'il n'y a plus, la notion du temps est complètement abolie.
Exactement.
Et une fois qu'on est dedans, on oublie le temps. On peut suivre sans problème, au point qu'on a l'impression de dépasser nos limites physiques aussi. Alors, comment vivez-vous cela, tous les moines du mont Athos, et en particulier pour les grandes fêtes comme ça?
Donc, pour toutes les grandes fêtes de l'année, dans tous les monastères, nous avons une vigile nocturne qui dure environ 8 heures. Mais pour la fête patronale, par exemple aujourd'hui, 3 monastères célèbres sont dédiés à l'Annonciation. Donc, l'office liturgique dure environ 14 heures ininterrompues. Donc, ça paraît complètement fou. Il faut être fou pour faire des choses comme ça. Mais en fait, c'est là, comme vous avez très bien dit, c'était un temps qui est complètement dépassé, transfiguré, et une présence, une manifestation de la vie éternelle. Et les moines n'ont pas de difficulté à rester, donc chacun selon ses forces physiques, mais à rester. Il y a une telle variété de chants et de mouvements, etc., qu'on ne s'ennuie pas du tout. Et que c'est l'occasion, justement, en plus de contacts sociaux, parce qu'on a toujours des relations, d'autres monastères qui viennent nous rendre visite, des amis extérieurs, des évêques, etc. Et donc, c'est tout panigiris, donc la fête en grec, ça veut dire aussi la foire. Donc, c'est un peu la foire dans un monastère qui célèbre sa fête. Mais ça a toujours été comme ça dans la tradition grecque. Donc, l'office liturgique est véritablement une théophanie, une manifestation de Dieu et du royaume des cieux déjà présent parmi nous. Et donc, la durée est un élément important, et même les offices quotidiens sont longs, mais pas ennuyeux, parce que justement les moines ou les fidèles laïcs savent qu'ils sont déjà dans une antichambre du royaume des cieux.
Et pour qui a eu la chance d'assister à ce genre de célébration, il sait que d'abord cela est accompagné d'un grand repas, même si on est en grand carême, évidemment il y a des règles.
Il y a du poisson pour l'Annonciation.
Voilà, puisque évidemment il est permis de manger du poisson. D'ailleurs, un moine ne mange jamais de viande. Mais au-delà du repas, si vous voulez, qui a un caractère bien sûr festif, je dirais que même le repas est intégré dans la liturgie. Il y a quelque chose de...
Tout à fait. Oui. Il y a une célébration liturgique pendant le repas. Il y a un office qu'on célèbre, l'élévation de la Panagia, de la Mère de Dieu, donc une sorte de morceau de pain qu'on élève, on invoque la Mère de Dieu et on le distribue, et en chantant, etc. Tout ça a une continuité, on rentre en procession dans le réfectoire, on sort en procession. On sent que, justement, toute la vie humaine est transfigurée par la présence de Dieu. Donc l'office dans un monastère, ce n'est pas seulement l'office qui est célébré ou tant donné dans l'Église, mais c'est toute la vie. Chaque activité dans un monastère, même la plus matérielle, commence toujours par une prière, par une bénédiction accompagnée de prières. Donc on est baigné dans une atmosphère de la présence de Dieu. Ce n'est pas exclusivement pendant les offices liturgiques.
Père Macaire, avant de terminer cette émission, et en sachant bien évidemment que le mont Athos n'est pas un lieu pour faire du tourisme, mais un lieu de pèlerinage et de prière, que peut-on faire si vraiment on veut y aller? D'abord, si on ne connaît personne. Et puis, évidemment, j'imagine que si on connaît déjà quelqu'un, c'est beaucoup plus facile si on a un père spirituel là-bas ou si on connaît quelqu'un dans un monastère. Mais pour quelqu'un qui a envie d'aller connaître cet espace dédié à la célébration de Dieu.
Oui, maintenant, c'est facile, les communications. Et on a, simplement, comme il y a beaucoup de pèlerins qui viennent, il faut s'y prendre à l'avance. Communiquer avec le bureau des pèlerins à Thessalonique. On trouve des sites sur site Internet, etc. Donc, mais il faut bien distinguer deux choses depuis quelques années. Autrefois, on avait simplement l'autorisation d'entrer au Moitos et on était libre après de circuler pendant 3-4 jours. Simplement maintenant, à cause de l'abondance des visiteurs, il faut obtenir l'autorisation d'entrer au Moitos et ensuite se mettre d'accord avec les monastères qu'on veut visiter, qui en général donc, ont besoin d'être prévenus à l'avance pour avoir suffisamment de place. Mais l'hospitalité est gratuite et la circulation est gratuite. Enfin, et donc c'est une expérience qui est un peu une aventure. Mais il faut être libre un peu de ces programmes parce qu'on fait toujours un programme et ça ne marche jamais. Donc ça change toujours et il faut être comme ça, disponible.
Le seul programme, c'est la prière, j'imagine.
Voilà, c'est ça, puis se laisser porter par la mère de Dieu.
Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Père Macaire. C'était donc Annonciation Seconde Création avec le Père Macaire, hier au moine du monastère Simonos Petra. Notre prochaine émission, ce ne sera pas dans 15 jours, mais dans 3 semaines, une émission consacrée à la fête de Pâques. Ça coïncidera donc avec les Pâques orthodoxes, le 15 avril, avec notamment le message du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Michel Mestre. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75-220 Paris 7-16. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr.